Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans. Les syndicats lycéens et étudiants ont aussi appelé à se mobiliser. Notre invitée sera la vice-présidente de l'UNEF, Samia Mokhtar. Une réforme des retraites qui fait l'unanimité contre elle à gauche. Nous écouterons Lamiaël Arrage, adjointe de la maire de Paris, porte-parole du Parti Socialiste, invitée de Pluriel hier soir. Nouvelle tentative, nouvel échec. Au Liban, pas de président élu ce jeudi matin, pas de date pour une prochaine séance parlementaire. Deux Palestiniens ont été tués ce matin lors d'un raid de l'armée israélienne. Cela s'est passé à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'opposant et homme d'affaires algérien Rachid Dennekaz a été libéré. Il avait été condamné à 5 ans de prison en juillet dernier. La grève contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans. Une grève très suivie aujourd'hui, notamment dans l'éducation et les transports. La SNCF annonce une circulation très fortement perturbée avec un TGV sur 3, voire 1 sur 5 selon les lignes. À peine un TER sur 10 en moyenne. 3 lignes du métro parisien sont fermées. La RATP qui évoque un risque de saturation sur les lignes ouvertes. La FAGE, l'UNEF et le mouvement national lycéen ainsi que d'autres syndicats de jeunes ont aussi appelé à se mobiliser aujourd'hui contre cette réforme des retraites. Entretien avec la vice-présidente de l'UNEF, Samia Mokhtar.
On a une réforme des retraites qui a été annoncée par le gouvernement où dans les principales mesures, on retrouve à la fois le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, mais aussi l'accélération de la réforme Touraine qui nécessite 43 ans de cotisation pour pouvoir avoir accès à une retraite en plein, et sauf que cette mesure-là, en fait, elles ont aussi impacté, elles impactent l'ensemble de la société, mais aussi les jeunes. Parce que quand on parle d'une réforme des retraites, c'est pas seulement pour les personnes qui vont bientôt y entrer, c'est en partie les jeunes que ça va concerner, puisqu'on parle à la fois des retraites en soi, d'accord, mais c'est l'ensemble du modèle social français qui est impacté. C'est la question du chômage, la question de l'insertion professionnelle, des conditions de travail, du pouvoir d'achat qui sont touchés également. Et pour nous, en tant que jeunes, on va être impacté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, on a un taux de chômage chez les jeunes qui est très important, puisqu'on est à 18% de chômage, qui est 10 points de plus que le reste de la population. Et donc, on va demander à des personnes de travailler plus tard, et donc en fait ça va avoir un impact aussi sur la possibilité pour les jeunes d'accéder à l'emploi, puisque enfin on aura plus de personnes qui travailleront et donc moins de place pour les jeunes aussi, déjà que c'est des difficultés assez compliquées. Au-delà de ça, quand on regarde un petit peu la question de l'emploi chez les jeunes, en plus de la difficulté due au chômage, c'est aussi des jeunes qui, aujourd'hui, en moyenne, accèdent à leur premier emploi stable à 27 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, avant 27 ans, c'est enchaîner des emplois précaires, être dans des conditions qui sont assez désastreuses. Et avec, partant de ce principe-là, en fait, c'est du principe qu'on doit cotiser pendant 43 ans de manière stable, c'est-à-dire sans avoir d'arrêt dans notre emploi, sans avoir de période de chômage, en fait, au final, un jeune va avoir accès à une retraite pas à 64 ans, mais bien à 67 si on veut avoir un taux plein. Et donc, on voit bien que toutes les mesures là qui sont annoncées, ça nous concerne aussi en tant que jeunes. C'est encore une fois aussi un gouvernement qui fait passer un message sur sa jeunesse, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est précaire quand on est dans les études. On voit qu'il y a un coût de la vie qui augmente. On a des jeunes, des étudiants qui se retrouvent dans une galère pas possible.
Vous vous mobilisez ce jeudi. D'autres actions pourront être menées. C'est ce que vous envisagez?
Aujourd'hui, l'UNEF appelle à la mobilisation de l'ensemble de la jeunesse et des étudiants. On appellera à l'ensemble des dates qui seront décidées par l'intersyndicale. Il y a une nécessité à pouvoir mettre un frein à cette réforme et à aller porter un autre projet de société qui convienne à la jeunesse. Donc oui, aujourd'hui, il faut qu'on puisse prendre les choses en main, parce qu'on a des enjeux qui sont assez importants, que ce soit sur la réforme des retraites, mais aussi côté étudiant, on a une réforme des bourses qui est en cours aujourd'hui, où il y a une nécessité pour la jeunesse de se mobiliser aussi sur ce sujet-là pour avoir une véritable mise en protection sociale.
Et des actions de blocage peuvent être envisagées ou cela est exclu ?
pour l'instant, l'UNEF n'appelle pas au blocage des universités, on appelle les étudiants à pouvoir se mobiliser, s'organiser, à participer à des assemblées générales et principalement à aller en manifestation.
Une marche des organisations de jeunesse aura lieu le 21 janvier prochain. Samedi prochain, l'UNEF y participera-t-elle ?
L'UNEF ne participera pas à la marche organisée le 21 janvier. Nous n'avons pas signé l'appel à cette marche, d'une part parce qu'on s'inscrit dans la stratégie et dans les dates unitaires posées dans le cadre de l'intersyndicat, appelé par les syndicats professionnels et par l'UNEF également, et qu'on considère aussi qu'une marche le samedi, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour poser un rapport de force à ce gouvernement, puisque aujourd'hui il faut pouvoir se mobiliser en semaine parce que ça a été démontré quand on va gagner des victoires, c'est aussi par les grèves ouvrières et on a une nécessité à pouvoir aussi permettre ça. Mais donc non, nous n'y serons pas et nous n'y appelons pas du tout.
Vous avez évoqué la réforme des bourses, cette réforme des bourses sur critères sociaux délivrée par le CROUS. Est-ce que vous pouvez nous faire part des principaux éléments de cette réforme ?
En fait, ça fait 6 ans que le gouvernement annonce une réforme des bourses sans jamais pour autant l'avoir arrivée. Là, aujourd'hui, on a des concertations qui ont débuté dès le mois d'octobre avec un gouvernement qui prévoit à la fois des mesures d'urgence à la rentrée 2023 et une réforme des bourses plus structurelle, un changement de système pour les années 2024-2025. Actuellement, ce qu'on voit lors de ces concertations-là, c'est qu'on a un gouvernement qui ne sait pas réellement où il va, ou quand on nous pose une réforme des bourses dans un contexte où on a des étudiants qui ne savent plus comment se nourrir, où on a une angoisse permanente, on a un coût de la vie qui a explosé ces dernières années, et encore plus là, dans une période où on a une inflation très forte, on voit que le gouvernement n'est pas en train de prendre ses responsabilités puisqu'on n'a pas de réforme ambitieuse qui nous est proposée. Le gouvernement, il va à tâtons et surtout, on n'a aucun budget qui est mis sur la table aujourd'hui. Et donc, au vu des premiers mois de discussion qu'on a pu avoir avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on se rend compte que cette réforme des bourses qu'on nous promet depuis tant d'années, elle ne sera encore pas à la hauteur. Et donc, il y a une nécessité de pouvoir aussi mettre la pression parce que aujourd'hui, ce ne sont pas des mesures à la marge qu'on demande. C'est vraiment pouvoir changer la vie des jeunes qui sont en formation avec notamment la mise en place d'une allocation d'autonomie de 1 100 euros pour l'ensemble des étudiants. Parce que sans ça, on ne pourra pas avancer et ça ne permettra pas aux jeunes de pouvoir prendre leur vie en main, d'avoir des bonnes conditions de vie et d'études.
Vous évoquez cette inflation galopante, la jeunesse est particulièrement touchée. Aujourd'hui, quel type de mesures vous demandez au gouvernement face à cela ?
Oui, en effet, les jeunes sont les principaux touchés par cette augmentation des prix. On a un coût de la vie qui a augmenté de 6,47% entre la rentrée dernière et celle-ci. Là, on a une explosion sur le coût de la nourriture et donc il y a plusieurs choses à faire. C'est à la fois une réforme structurelle, comme je le disais, avec la nécessité d'avoir une allocation d'autonomie de 1 100 euros pour l'ensemble des étudiants, y compris les étudiants étrangers qui aujourd'hui sont exclus du système de bourse. Et quand on parle de l'ensemble des étudiants, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 73% des étudiants qui n'ont pas accès à une bourse. Pour autant, on a une précarité qui touche l'ensemble des jeunes. Ça, c'est sur les mesures structurelles où il y a vraiment une nécessité à mettre ça. Et puis, il y a des mesures d'urgence aussi, qui sont le fait de permettre à tout le monde d'avoir accès à la tarification sociale, notamment sur le repas à 1 euro, où la question de l'alimentaire est quand même un point central au vu de l'augmentation des prix des denrées. Pour autant, aujourd'hui, tous les jeunes n'ont pas accès à cette tarification à 1 euro dans les CROUS, alors même que le repas social du CROUS aujourd'hui, on voit que c'est une réponse qui est beaucoup demandée par les étudiants, puisqu'on a une augmentation de la fréquentation des restaurants universitaires qui a augmenté de 24%. Sur cette rentrée, c'est aussi le fait de permettre d'investir dans la construction de logements universitaires pour avoir une tarification sociale, puisque là on a aussi une explosion des prix sur le logement qui représente 50% du budget d'un étudiant. C'est en mesure d'urgence pour cette rentrée l'augmentation du nombre de boursiers, l'augmentation du montant des bourses, puisque aujourd'hui on est quand même sur des sommes dérisoires. Il faut savoir qu'un étudiant boursier qui a l'échelon maximal de bourse, touche 596 euros par mois. 596 euros, c'est même pas suffisant pour pouvoir se payer un logement dans la plupart des villes. Et surtout, cet échelon maximal, on a très peu d'étudiants aujourd'hui qui y ont accès.
La vice-présidente de l'UNEF, Samia Mokhtar, l'invité de Pluriel hier soir était Samia El Haraj, adjointe de la maire de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. Porte-parole du Parti Socialiste, elle explique pourquoi elle est opposée à la réforme des retraites.
Cette réforme, elle est totalement injuste. Cette réforme, elle fait peser sur les travailleurs, elle fait peser sur les plus fragiles, elle fait peser sur les plus précaires les choix politiques et les choix économiques d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a un constat qui est clair, qui est issu du rapport du COR, qui dit quoi ? Il dit que le régime des retraites cette année est excédentaire de 3,2 milliards d'euros. Il dit que le régime des retraites sera effectivement déficitaire dans les prochaines années de l'ordre de 12 à 15 milliards d'euros. C'est des chiffres qui font peur. Mais 12 à 15 milliards d'euros, je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est 0,5% du PIB de la France. Donc ce n'est pas grand-chose. Et le rapport du COR, il dit aussi que le régime des retraites reviendra de façon naturelle à l'équilibre aux alentours de 2070. Donc cette réforme, en soi, elle n'a pas raison d'être. Au-delà de ça, il y a des choix politiques différents qui auraient pu être opérés pour accélérer, si je puis dire, ce retour à l'équilibre, pour pas qu'il arrive en 2070, mais qu'il arrive plus tôt. Par exemple, la suppression de la CVAE, qui aujourd'hui représente 18 milliards d'euros en moins dans le budget de l'État. Par exemple, elle aurait pu être supprimée. C'était 18 milliards d'euros en plus de revenus qui viendraient compenser ces 12 à 15 milliards d'euros. Par exemple, le fait de faire progresser le taux d'emploi des seniors, qui est aujourd'hui de 55% de 10 points, donc de l'amener à 65%, ça aurait pu permettre un retour à l'équilibre de notre régime de retraite. Par exemple, de mettre en place une cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus de l'ordre, attention, accrochez-vous bien, de 2 à 4 euros par an, aurait pu permettre un retour à l'équilibre du régime des retraites. Or là, ce que nous dit Emmanuel Macron, ce que nous dit Madame Borne dans sa réforme, c'est aux travailleurs de payer les choix économiques de Monsieur Macron, à savoir de favoriser les plus riches et d'empêcher les plus pauvres. Est-ce que vous connaissez la différence d'espérance de vie entre les hommes, les 5% d'hommes les plus précaires et les 5% d'hommes les plus favorisés? Elle est de 13 ans. L'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, la différence, elle est de 7 ans. C'est absolument colossal. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie, et on l'attend tous, je crois, à notre retraite pour pouvoir jouir du temps libéré, profiter de nos familles, de nos proches, de nos petits-enfants, si on en a, bref, de pouvoir profiter un petit peu de la vie, ben en fait, pour un certain nombre d'entre nous, nous n'aurons pas l'occasion de profiter de notre retraite parce que nous ne serons pas en état de le faire physiquement ou nous serons potentiellement déjà décédés. Et ça, c'est inacceptable, c'est injuste et c'est à cela que nous disons non.
Quelles seraient les conséquences de cette réforme des retraites pour les femmes, mais aussi pour les personnes qui ont une carrière hachée ?
La conséquence, c'est de considérer s'ils devront partir à la retraite beaucoup plus tard, même si, et je reconnais, le fait de mettre en place une pension minimum est plutôt une bonne chose et va dans le bon sens. La prise en compte des congés paternité et maternité est aussi une bonne chose, mais pour autant, là aussi, on fait peser, encore une fois, sur les plus précaires et les personnes qui ont les carrières les plus difficiles, le poids de ces choix politiques, et c'est absolument inacceptable. Et je crois que le front, par ailleurs, est unanime par rapport à ça, dans le sens où 8 Français sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. Tous les syndicats sont opposés à cette réforme des retraites. Et derrière, on voudrait nous expliquer que le président de la République entend les revendications sociales et entend s'inscrire dans une discussion. Mais quelle est la discussion ? Quand vous avez 80% des Français qui sont opposés et l'intégralité des syndicats, pourquoi vouloir passer en force ? Quel est le message envoyé aux Françaises et aux Français, notamment dans un contexte où l'inflation est de l'ordre de 15% sur les matières premières et les denrées alimentaires? Et quand la plupart de nos concitoyens n'arrivent même pas, non pas à boucler leur fin de mois, mais pour un grand nombre d'entre eux, à commencer le mois.
Samia El Haraj, adjointe de la maire de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap, porte-parole du Parti Socialiste. Elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Toujours pas de président au Liban. Les députés libanais se sont réunis ce matin au Parlement à Beyrouth pour une 11e séance consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République. La dernière tentative remontait au 15 décembre. Le poste est vacant depuis l'expiration du mandat de Michel Aoun le 31 octobre. octobre dernier. Le président du Parlement n'a pas donné de date pour la prochaine séance parlementaire. Deux Palestiniens ont été tués ce matin lors d'un raid de l'armée israélienne. Cela s'est passé dans la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé palestinien. Les médias palestiniens font état d'échanges de coups de feu après l'entrée des troupes dans le camp de réfugiés pour arrêter des Palestiniens recherchés. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient s'inquiète, selon ses mots, des provocations et de la rhétorique incendiaire entre Israéliens et Palestiniens. Des propos devant le Conseil de sécurité, il s'est aussi dit très inquiet de l'impact sur les finances de l'autorité palestinienne des récentes mesures prises par Israël. Mesures prises en représailles au vote fin décembre par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution demandant l'avis de la Cour internationale de justice sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens. L'opposant et homme d'affaires algérien Rachid Nekaz a été libéré. Il avait été condamné à 5 ans de prison en juillet dernier. Cette libération intervient 2 semaines après l'annonce de son abandon de la vie politique dans une lettre rédigée depuis sa cellule et remise à ses proches. Incarcéré depuis mai 2021, Rachid Nekaz avait déjà été emprisonné de décembre 2019 à février 2021, notamment pour incitation à la violence par le biais des réseaux sociaux. Une personne est morte et des dizaines d'autres ont été blessés dans une bousculade en Irak. C'est arrivé à l'extérieur d'un stade de Bassora, dans le sud du pays, là où doit avoir lieu la finale de la Coupe du Golfe de football. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Radio Orient, qui est diffusée depuis ce matin au Mans, en DAB+, et en étendue, votre radio qui poursuit l'extension de son réseau à un rythme soutenu. Bienvenue à l'ensemble de nos nouveaux auditeurs. Vos rendez-vous sur votre radio, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, Mythes et réalités du vrai pouvoir du soft power, les invités d'Alexis Bachelet, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Benjamin Morel, universitaire, professeur de droit public. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Il est 12h17. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.